Avant la méditation guidée ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler un petit peu de la pratique. Je voudrais parler des trois pratiques qui sont également importantes. Alors, il y a l'assise, qui est une des pratiques. Il y a la marche méditative. Puis la troisième pratique, ou peut-être j'aurais dû le faire dans l'ordre inverse, juste pour pas que ça donne l'impression que l'assise a plus de valeur que... Donc, la première pratique, c'est ce qu'il y a autour de l'assise et de la marche méditative. Alors, tout ce qu'on appelle les activités quotidiennes. Je veux parler de ça parce que la retraite, ça peut être très, très riche. Puis pour pas qu'on s'arrête juste à l'assise, là, puis qu'on amène tout notre séjour ici avec nous. Alors, quand moi j'ai eu la chance de pratiquer avec des maîtres birmans ou thaïs ou les maîtres occidentaux, plusieurs d'entre vous aussi avaient eu cette chance-là. Moi, quand je vois les maîtres puis qu'ils me demandent un rapport de ma méditation, ils demandent toujours en trois questions. Parle-moi de comment c'était quand tu es entré dans la pièce ici, quand tu as enlevé tes souliers, quand tu as... Moi, souvent, j'arrive et je veux parler de mon assise, la pratique. Alors, il s'est passé ça quand j'étais... Non, non, non. Comment c'était quand tu as monté l'escalier? Est-ce que tu étais présent? Quelles étaient les qualités de ton esprit? Tu étais présent à quoi en montant l'escalier? Ben, je sais pas, je venais vous... Demain. Demain. Alors, demain... Alors, le lendemain, moi, là, je suis très présent en montant les escaliers, en retirant mes chaussures. Okay. Comment c'était au réveil ce matin? Non, non, mais l'assise, la pratique assise. Demain. Alors, juste pour... donc, cette pratique-là, de tout ce qui entoure... Moi, j'aime beaucoup ça. Je donne beaucoup de valeur à ça maintenant parce que mes profs m'ont appris ça, mais aussi parce que je vis dans ces activités, que c'est là où ma vie est. Là, je passe peut-être une heure ou deux assis sur un coussin pendant la journée, mais le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Je prends une douche, je coupe des carottes, j'ouvre des poignées de porte, etc. Alors, c'est là où est-ce que j'aurais envie d'être éveillé, d'être... libre. Puis donc, ici, l'idée, là, c'est d'amener de la pleine conscience dans ces régions-là. Alors, première pratique, la pratique de ce qu'il y a autour de l'assise et de la marche. Deuxième pratique, la marche elle-même. Puis je vais en parler plus tout à l'heure, juste avant qu'on la fasse. Puis la troisième pratique, donc, l'assise, ici. Alors, petite liste de trois. On peut se rappeler de ça, là. Puis, donc, il y a des moments là après, ben, il y a les repas eux-mêmes, c'est magnifique le repas, toute la danse autour de la table et de comment atteindre un aliment. Tu sais, ouais, il y a des obstacles humains qui m'empêchent d'atteindre le muesli tant désiré. Alors, c'est une belle occasion là d'être très présent. Hein? On développe, ici, on s'intéresse à la pleine conscience, à être conscient de ce qui est en train de se passer dans le corps. Et dans le cœur ou dans l'esprit. Alors, ça c'est très riche là. Il y a plein de moments là où est-ce que il y a des rencontres là, dans le silence, tout ça, puis d'être très conscient de ça. On est invité à faire ça. Alors, ces trois pratiques-là. J'ai trois listes de trois que j'avais en tête ce matin dont je voulais parler. Il y a aussi une façon dans la psychologie bouddhiste de trois niveaux pour définir comment on peut apprendre ou comprendre quelque chose. Alors, un des niveaux, c'est l'information. Alors, dans la culture dans laquelle on vit, il y a une grande, grande, grande emphase là-dessus, de l'information. On peut apprendre des choses constamment. L'information rentre à pleine vitesse. Ça, c'est un niveau très important d'avoir des informations. Un niveau plus profond et complémentaire aussi, c'est la réflexion. Alors, je reçois de l'information, puis là, ensuite, je réfléchis. Ah, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma société? Qu'est-ce que ça... Alors, la réflexion. Ça aussi, ça a sa place dans notre société, un peu moins que l'information, mais c'est là. Et il y a un autre niveau qui est la méditation. Alors, la méditation, ce n'est pas la réflexion, puis ce n'est pas l'information, c'est un autre niveau. Puis c'est celui qui nous intéresse particulièrement ce week-end. Même si, évidemment, il va y avoir de l'information, c'est un peu mon boulot d'amener un peu d'information. Vous allez aussi réfléchir aux choses, au sens de votre vie, ou trucs comme ça, il va y avoir de la réflexion. Mais il y a le niveau de méditation là, qui est très, très important. La méditation, ce n'est pas de l'analyse, ce n'est pas de la réflexion, c'est pas conceptuel, c'est pas dans le domaine de la pensée, c'est dans le domaine de l'expérience. C'est une expérience plutôt silencieuse, une expérience directe, très simple, immédiate de la vie. Et dans la psychologie bouddhiste, on met beaucoup d'emphase là-dessus, c'est très valorisé. Dans la société, pas tellement. C'est mon impression, du moins. Alors, quand vous êtes assis sur le coussin, ou quand vous faites la marche méditative, ou dans les autres activités pendant la journée, dès que vous voyez que vous êtes un peu discursif, que dès qu'il y a, je dirais, trois phrases qui s'enchaînent, là, c'est sûr qu'on n'est plus dans le monde de la méditation. À moins qu'on soit conscient qu'il y a un déferlement de pensée, que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un passage de pensées, il y a des pensées qui passent. Si on est un peu pris ou fasciné ou on entre dans la transe des pensées, on vient de sortir du champ de la méditation. C'est pas pour dire que la réflexion n'a pas de valeur. Elle en a, elle est très importante, mais on est assez déséquilibré, nous. Par exemple, moi, vous m'assoyez sur un coussin, vous me donnez 30 minutes, je peux passer 30 minutes à réfléchir aux choses, à moi, à ma vie, les gens autour de moi, ma société, je peux y penser. Très important, mais à l'heure de la méditation, c'est pas du tout ça dont il s'agit, là. Il s'agit d'une expérience plutôt d'intimité, de rencontre avec la réalité. Puis là, il y a peut-être pour certains d'entre nous un acte de foi là, qui est nécessaire. On ne sait pas très bien pourquoi on ferait ça, on ne connaît même pas ça tellement en fait. Et là, on est invité à s'asseoir et à juste écouter le silence, sentir la température de la pièce, les yeux ouverts ou fermés, devenir conscient de la luminosité, c'est ce qui devient à l'avant-plan de l'expérience, sans chercher à, en quittant là, l'idée de problème à résoudre, etc. On sort de ça, là. C'est une rencontre avec ce qui se passe, simplement, immédiatement. Pour plusieurs d'entre nous, ça va ouvrir une porte vers l'ennui, le doute. Certains états mentaux pas faciles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je le fais bien? Etc. Principalement parce que ce qu'on fait est extrêmement simple. Ça va peut-être nous poser des questions sur la valeur de ça, etc. Alors, on n'est pas dans l'analyse, la réflexion, mais dans l'expérience directe. Alors la troisième petite liste de trois. Alors il y avait les trois niveaux de compréhension, l'information, la réflexion, la méditation. Highlight ici, méditation. Les trois pratiques de les activités quotidiennes. La marche, l'assise. Puis une petite liste de trois, moi qui m'aide toujours quand je m'apprête à pratiquer. C'est d'abord, j'en ai parlé hier soir, la compréhension juste de ce qu'on fait. Alors, là, on se dirige vers l'universel, la nature humaine. On va rencontrer la nature humaine. Pour moi, ça, c'est très aidant de me rappeler de ça. C'est une étude des phénomènes de la vie humaine. Le deuxième point dans cette petite liste-là, c'est l'attitude, qui peut être vraiment très, très, très aidant. Aussi, pour moi, extrêmement important. Je vais peut-être vous raconter quelques histoires autour de ça pour faire ressortir ça. L'attitude non-violente, amicale, bienveillante. Ça, c'est le grand fluide là, qui va faire que le week-end va être douloureux ou beaucoup moins douloureux. Si l'attitude est « friendly », plusieurs d'entre vous connaissaient peut-être Jack Kornfield. Hein? Mm-hmm. Jack, c'est lui qui m'a formé à l'enseignement. J'ai eu la chance de passer 4 ans avec à apprendre à enseigner. Et je pense que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai eu la chance d'enseigner avec lui pendant 1 mois, une retraite d'un mois où une centaine de personnes étaient en silence pour 1 mois, puis on enseignait avec, avec Jack. Et j'ai remarqué que, bon, là on parle de quelqu'un qui enseigne depuis 45 ans, qui est comme une sommité, là. Et pendant toute la retraite, je ne crois pas que Jack, ça se passait en anglais, que Jack ait utilisé une fois le mot « mindfulness », qui est vraiment la qualité là, au centre de cette pratique-là. Le tout part de ça. Hein, quand je parle d'assise, marche, les activités quotidiennes, c'est l'attention, la pleine conscience. Pendant tout le mois, je ne pense pas qu'il ait dit le mot « mindfulness », mais il a dit à répétition, tous les jours, plusieurs fois par jour, le genre de phrase que ça donnait en anglais, ça donnait « Bring your loving awareness to... » dot, dot, dot. « Bring your loving awareness to the body sitting, breathing, the state of your mind. » Alors en français, ça donne comme « Amenez votre attention aimante à la respiration. » Apportez votre attention aimante à l'état de votre esprit ou de votre cœur en ce moment. Puis un jour, au début de la retraite, il a dit, « Ah oui, pendant les 30 premières années, on enseignait la pleine conscience, la mindfulness, puis on était sûr que ça allait faire le travail. Mindfulness, 30 ans, quelques décennies de ça. Puis là, dernièrement, dans les 10-15 dernières années, on s'est rendu compte que non. Ça n'allait pas jouer, ça n'allait pas fonctionner comme ça. Qu'il faudrait inviter une autre qualité là-dedans. La qualité de la bienveillance. Que ça allait, c'est comme ça que ça allait bien marcher. Alors, moi je me souviens là, d'avoir écouté, être très attentif, parce que quand quelqu'un qui enseigne depuis 45 ans dit quelque chose comme ça, il me semble que ça vaut la peine de s'arrêter puis de considérer ça. Là. Une autre enseignante que j'aime beaucoup, Sylvia Boorstein, peut-être que certains d'entre vous la connaissez. Sylvia aussi, à Spirit Rock en Californie, un endroit où j'enseigne régulièrement. C'est une des aînées qui est là, fondatrice du lieu. Puis... D'ailleurs, elle parle un petit peu français. Vous pourriez peut-être mentionner à Anne que ça serait... Elle a une grande sagesse, très drôle aussi, elle a plusieurs livres, certains traduits en français. Et dans ma formation, elle m'a invité à venir passer une semaine, elle enseignait une retraite sur la bienveillance, metta. Normalement, quand on fait cette pratique-là, souvent ça passe par des phrases, hein, plusieurs d'entre vous le savez, on pense à quelqu'un, puis on envoie une série de souhaits de bien-être, que tu sois heureuse, que tu sois en santé, que tu sois bien. C'est le développement classique de cette qualité-là. Et on est arrivé à la retraite, puis Sylvia a dit aux gens, bon, est-ce que vous pouvez avoir une attitude amicale tout en écoutant les sons ambiants, tout en sentant votre respiration, c'est ce dont vous devenez conscient ou consciente, tout en étant ici. Puis là, ensuite, la méditation finit, puis bon, on pourrait peut-être aller marcher. Pourriez-vous marcher de façon bienveillante? Vous amener prendre une marche avec bienveillance, tout ça. Puis la semaine a passé comme ça, puis il n'y a jamais eu de phrase, développement classique, là, de, on pense à quelqu'un, on voit cette personne-là, puis on envoie des souhaits de bien-être. Puis à la fin, je lui demandais, c'est quoi la... C'est la première fois que je fais une retraite méta comme celle-ci. Qu'est-ce que... C'est très près de la pleine conscience. Puis elle me dit, écoute, ça fait tellement longtemps que je pratique, je ne vois aucune différence entre l'un et l'autre. Pour moi, c'est la même chose. On est invité à amener, en anglais, on pourrait utiliser le verbe « to care about what's happening », amener son attention, prendre soin de ce qui se passe, la température de la pièce, les mains qui touchent les cuisses ou qui se touchent l'une l'autre. Alors, être pleinement conscient, être attentif à, c'est prendre soin de ce qui se passe en ce moment. Laisser tomber ce qui aurait pu se passer, ce qui pourrait se passer, ce qui devrait se passer. Faire cette pratique radicale-là d'abandonner toutes ces constructions mentales-là, ces idées-là, pour arriver dans le moment présent, puis prendre soin du moment présent. Alors, donc, ça, c'est le deuxième point, là, l'attitude juste. Donc, une attitude bienveillante. Moi, je vous invite à amener beaucoup d'attention, à valoriser ça. Là. J'utilise beaucoup ce mot-là, valoriser, valeur. Puis le dernier point, alors, premier point pour moi, c'est l'expérience humaine. C'est pas si personnel que ça. L'attitude bienveillante. Le troisième point, c'est la pleine conscience elle-même, l'attention. Je vous invite à sentir vos paupières maintenant. Puis je vous invite maintenant à sentir vos mains. Est-ce que c'était forçant? Est-ce que c'est forçant de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être épuisant de sentir ses paupières? L'effort requis est absolument minimal. Pas, je dois sentir mes paupières. On dit, pouvez-vous sentir vos paupières? Bouh! Pour la plupart d'entre nous, tout de suite, on devient, c'est comme, c'est là. C'est, on est toujours attentif. On n'a pas à produire de l'attention. Là. Ça vient avec l'expérience humaine, il y a de l'attention. Souvent, nous, on la donne complètement, on est absorbé par nos pensées. Ouais. Mais l'attention, c'est un facteur très, très naturel. Alors, le boulot qu'on a à faire n'est pas quelque chose d'exigeant. Là. Être attentif, c'est extrêmement simple. Il suffit de savoir un peu où est notre attention. On peut juste s'intéresser à ça dans la pratique. Ah, où va mon attention? Parce que l'attention va toujours quelque part. On pourrait décider de la diriger ou de voir où elle va. Alors, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait vous aider aujourd'hui. Voyez pour vous-même. Quelques mots sur la posture, puis après ça, on s'attache. On boucle la ceinture et on part. Alors, pour la posture elle-même, peut-être que ce week-end, plusieurs d'entre vous là, avez votre pratique, c'est déjà très établi, votre posture, vous connaissez ce qui marche pour vous, mais quelques mots pour les gens qui commencent un peu la pratique. Ici, il va y avoir plusieurs heures d'assises là, pendant le week-end. Alors, sentez-vous libre de passer d'une posture à une autre, là, d'essayer le banc, le sol ou la chaise. À cause de l'espace qu'on a, je pense que c'est mieux de pas s'approprier comme une chaise avec un truc personnel dessus et un coussin. Peut-être que si vous êtes majoritairement au sol, vous avez besoin d'une chaise, comme on dit chez nous, tirez-vous une bûche de temps en temps, prenez-vous une chaise, asseyez-vous dessus, puis quand vous la quittez, laissez-la libre pour que quelqu'un d'autre puisse la prendre à un autre moment. Puis il y a plein de chaises ici, puis on peut réorganiser l'espace un peu pour que, si vous sentez là, que c'est très difficile pour les genoux, d'un peu de relâcher la posture au sol. Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas nés dans une culture là, où on vit au sol, là, où on cuisine, on mange au sol, tout ça. Alors, la pratique de la méditation, c'est pas la posture exactement, c'est la posture mentale beaucoup plus que la posture physique, là. Et il y a des postures physiques qui vont être aidantes. Si vous êtes au sol, on dit que c'est bien d'avoir les hanches plus hautes que les genoux. Hein? Souvent, les coussins de méditation sont très bas. Oups. Puis on peut jouer avec, comme moi, mes hanches là, sont plus hautes que mes genoux. Ça aide les genoux à descendre au sol. Plusieurs façons de s'asseoir. Une façon au sol, c'est dans la posture dite birmane, je crois, avec une jambe devant l'autre. Alors les jambes ne se croisent pas, mais sont une devant l'autre. Si un genou est élevé, on peut peut-être mettre quelque chose, une couverture, quelque chose pour soutenir le genou. Des fois aussi, on peut jouer. Si un genou est élevé, on peut peut-être soutenir l'autre pour donner la chance à celui-ci de descendre. Alors ça, on peut jouer avec ça. L'autre chose qui est importante, c'est si on est assis au fond du coussin, c'est possible qu'on se retrouve un peu avec le dos rond comme ça. Alors il y a un petit jeu qu'on fait ici là, on fait un petit tilt. On joue avec l'ouverture ici du bas du dos, on descend l'os pubien, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça. Moi, quand je m'assois, souvent, les premières secondes, je cherche un peu, c'est quoi la bonne ouverture ici. Puis c'est un peu la même chose sur la chaise. Je veux qu'il y ait une courbe naturelle, qui ne soit pas forcée, mais qui ne soit pas non plus un C comme ça. Donc, parfois, en s'avançant un peu sur le premier tiers du coussin, ça peut aider. Puis là, on a un triangle qui va être solide, là, avec les deux genoux, les fesses qui forment un triangle. Comme ça, on peut vraiment se reposer, se détendre dans la posture. Si on est sur une chaise, moi, j'aime bien trouver mon triangle comme ça, là, avec les deux pieds, puis les fesses comme ça, puis encore une fois, jouer pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner. Si vous appuyez le dos, assurez-vous de pas... Je sais pas si ça peut être suisse, ça, comme façon de s'asseoir. C'est plus québécois. Chez nous, les gens s'assoient. Ben. Puis là, après ça, la prochaine posture, c'est celle-là. Alors, une légère courbe peut-être dans le bas du dos, là, quelque chose comme... Vous pourriez peut-être mettre un coussin sur une chaise comme celle-ci pour soutenir le bas du dos. J'ai vu qu'il y avait quelques bancs à l'extérieur. Là, vous voyez un peu le banc, comment on peut s'asseoir sur le banc, à genoux comme ça, les pattes en dessous. Puis c'est encore le même triangle. Puis trouver la bonne courbe au niveau lombaire. Les mains peuvent être posées où ça vous semble juste. Là. C'est bien de faire attention à la tête qui peut tendre à descendre un peu. Elle devient extrêmement lourde juste avec un petit peu vers l'avant, puis peut-être double de poids ou quelque chose comme ça. Alors vous pouvez vérifier ça un peu. Deux choses à se rappeler en général pour la posture, c'est comme quelque chose qui représente une sorte d'éveil, de dignité, puis de la détente aussi. C'est très important pendant la méditation qui va commencer, là, de ne pas se sentir pris dans la posture. On n'est absolument pas pris. Des fois, avec le silence, le prof qui va gérer le gong, tout ça, on peut sentir que là, on est pris là-dedans, on n'est pas pris. On peut toujours ouvrir les yeux. Ça devient extrêmement douloureux, on change la papatte. On la voit d'un côté ou de l'autre, on bouge un peu. On veut éviter de gigoter, puis comme on est plusieurs, on veut créer un espace de silence, mais on ne veut pas être pris, c'est très important ça. Pendant la pratique, pendant le week-end, sachez que vous pouvez toujours vous lever debout. Ça fait peu de bruit, ça peut vraiment beaucoup dégager la douleur. Puis si vous vous endormez, entre autres, c'est une bonne façon là, d'éviter le sommeil en se levant debout. Vous pouvez rester quelques minutes et vous rasseoir si vous voulez. OK. Alors, on va pratiquer une demi-heure, 30 minutes ensemble. Donc, on se rappelle qu'on n'a pas à réfléchir aux choses ici. Et on n'a rien à produire, rien à atteindre. On pourrait remplacer le mot méditation par écoute ou réceptivité. On veut seulement devenir un peu plus sensible à ce qui se passe en ce moment, sensible, sens. Je vous invite à vous laisser connaître la posture, faire l'expérience de l'assise. Avec une attitude bienveillante, si c'est possible, amicale, simplement non-violente, sans exigence. Juste découvrir ce que c'est que d'être assis. Ce que c'est que d'entendre. Découvrir ce que c'est que de respirer. Simplement laisser l'attention embrasser ce qui se présente, le phénomène qui se présente, un son, une sensation. Découvrez où va naturellement votre attention. Est-ce qu'elle va vers un thème obsédant ou est-ce qu'elle va vers les mouvements du ventre qui se gonflent et se dégonflent naturellement? Est-ce que votre attention s'échappe vers le passé ou un futur quelconque? Est-ce que votre attention peut favoriser une expérience d'intimité? Avec un événement présent, les mains. La respiration. Louis. En étant assis ici dans le silence, c'est possible qu'on découvre un peu aussi notre état d'esprit. On découvre de l'agitation ou du calme, de l'obsession, de la joie. Du doute ou de l'intérêt, de la curiosité. C'est possible de devenir conscient de ça. quel état est immédiatement, dans quel état est celui ou celle qui médite. Sans jugement. Ah, agitation, inquiétude. Équilibre, absence de réactivité, quoi que ce soit. De la même façon qu'on découvre les sensations ou les sons, on peut découvrir aussi notre état mental. Qu'est-ce qui est connu en ce moment pour vous? Dans la méditation, on sait ce qui est connu pendant que c'est connu. On est conscient de l'attention, de ce à quoi elle est donnée. Est-ce que vous êtes conscient de la respiration, des mouvements de la respiration? Vous êtes conscient d'autres sensations. Ou est-ce que vous êtes conscient du passage de pensée, d'image? C'est ce qui se passe principalement pour vous. Est-ce que votre attention est prise, sous l'emprise de quelque chose, kidnappée par un thème, une obsession? Est-ce que votre attention est perdue? Ou est-ce que vous êtes clairement conscient de ce qui est connu en ce moment, de ce dont vous faites l'expérience? Une chose. L'expérience du contact avec le sol, des mouvements du ventre, des mains qui touchent les genoux, les cuisses, ou se touchent l'une l'autre. Un seul phénomène à la fois. Si vous sentez que vous avez besoin de focaliser l'attention, donnez-la généreusement au ventre qui se gonfle et se dégonfle. Laissez seulement ça être connu. encore une fois, si vous voulez, devenez conscient de la qualité de l'esprit ou du mental qui médite. Est-ce que c'est éparpillé là-dedans ou ramassé, unifié? Est-ce que l'esprit est engagé avec ce qui se passe ou absent, perdu, pris? On ne porte aucun jugement, mais on devient très conscient de ça. Ah, c'est éparpillé, c'est agité. L'attention est stable, établie ou vacillante. Le cœur est léger ou lourd, ou ni l'un ni l'autre. S'il y a des sensations désagréables, essayez de voir si c'est possible de leur permettre d'être là encore pour une minute. Si la vie peut se manifester juste telle qu'elle est, que ce soit agréable ou non, intérieurement ou extérieurement. Laissez la vie se manifester encore une minute. Alors, l'attention qu'on a habituellement est assez superficielle, hein? Elle se promène d'un truc à l'autre, ça peut aller assez vite, passé, futur. On a juste assez d'attention là, pour pouvoir avoir l'information, pour que je puisse, par exemple, ramasser ma montre, tout ça. En général, là, je ne suis pas très intéressé là, à sentir le poids, le toucher, etc. Alors, ce vers quoi on se dirige, c'est un peu différent. Hein? C'est une attention extraordinaire. Pas juste ordinaire, mais il y a une petite valeur ajoutée là. C'est pas notre attention habituelle. Et ça demande un peu de... Ça prend du temps, ça demande un peu de temps. Là. C'est pas un truc qui est volontaire. Ok, maintenant j'ai une attention bien établie, raffinée, profonde. Ça se fait pas comme ça, c'est pas volontaire. On peut se diriger, tendre vers ça. Alors à chaque moment où on met l'attention à nouveau, on offre une attention de qualité à nouveau à ce qui se passe, c'est pas juste dans ce moment-là que cette attention-là, il y a quelque chose qui se développe, là, il y a une cause à effet. Là. Alors c'est important de savoir ça. À chaque fois que je suis attentif, je favorise le développement de ce truc-là. Là. Et bon, là aujourd'hui, on tend vers ça. Alors, faut pas être dur avec soi-même. Ah, j'ai encore parti dans mes pensées. Non, à chaque fois qu'on a la chance de revenir, d'entrer en contact avec quelque chose qui se passe dans la réalité. C'est ça les règles du jeu, là. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Pas ce que je voudrais qu'il se passe. Je suis pas tellement intéressé par ça, ce qui aurait pu se passer, etc. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Pas tout ce qui se passe, mais une chose. Mes mains, le froid dans mon visage, tout à l'heure à l'extérieur, je n'ai pas à prendre tout, là, mais une chose, ah, les sons des pas dans la neige, laissez quelque chose venir à l'avant-plan, donnez votre attention, ça va se présenter naturellement, il y a quelque chose qui va aller chercher l'attention, laissez ça être connu et soyez pleinement conscient de ça le plus possible. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça, quelque chose qui n'est pas clair? Quelques mots sur la pratique de la marche méditative. Alors, il y a une pratique formelle, de la même façon qu'une pratique formelle dans l'assise. Et cette pratique-là est très simple, en fait. Sur plusieurs d'entre vous savez, mais bon, on repasse constamment à travers ces instructions-là. Il suffit de se choisir un petit sentier, de quelques pas, un endroit où on va marcher 10, 15, 20 pas, puis on va marcher aller-retour dans ce petit sentier-là, qu'il soit à l'intérieur, il y a peu de place, je pense, à l'intérieur, peut-être dans la salle à manger ou dans des corridors, ou à l'extérieur, il fait beau, là. Habillez-vous chaudement parce que on marche pas très vite en général dans cette pratique-là. Et là, on fait juste marcher nos 10, 15, 20 pas, on s'arrête, on prend un moment pour respirer, sentir le corps qui est debout. Et on est invité à tourner et à retourner exactement d'où on venait. Alors, on se rend absolument nulle part. C'est une organisation encore de ne rien faire de façon très organisée dans le but de révéler ben, beaucoup de choses, mais entre autres les tendances de l'esprit à vouloir. Comment, par exemple, je décide moi de marcher. Là. Je vais marcher. Énorme défi. Est-ce que je peux marcher jusque-là en restant conscient? C'est le défi que je me donne. Alors, je peux sentir juste les pas qui se posent, la lourdeur, la pression, la légèreté. Je m'arrête. Waouh, j'ai réussi! J'étais là! Et bien, est-ce que je peux rester là? Parce que souvent, c'est ici que je pourrais partir. Et là, est-ce que je peux être là pendant que je tourne? Pas juste tourner pour être de l'autre côté, mais être là pendant que je tourne. Puis à nouveau, juste marcher. Cette fois-ci, je pourrais naturellement, qu'est-ce qui vient? Ah, je sens les vêtements sur mon corps, le toucher des vêtements, les pas à nouveau, la luminosité, la respiration, le mouvement. C'est extrêmement simple. On est dans quelque chose d'extrêmement primaire. On pourrait facilement penser, oui, mais allons vers les pensées, déconstruction du monde. Je ne sais pas, quelque chose là avec beaucoup de jus dedans là, pour la pensée. Mais la pratique est très primaire. On revient au contact avec les sens. En général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit un truc, puis on pense. Ah, j'aurais dû amener mes skis de fond, j'aurais pu aller faire... Un moment de contact de l'œil avec la vue, puis là, tout à coup, oups, on part dans un monde alternatif, tu sais. Je marche comme ça, je regarde, je vois quelqu'un. Ah, c'est là que je devrais marcher la prochaine fois, je vais aller marcher là. Tu sais. Puis là, oups, je viens de quitter la réalité pour un monde alternatif, tu sais. Quelque chose comme... Alors là, on essaie de voir si on peut rester en contact avec la réalité, à la porte des sens. Puis donc, le règlement, là, c'est les règles du jeu, c'est très ouvert, ça peut être l'ouïe, la vue, mais est-ce que je peux être conscient de voir, wow, cette sensibilité-là, c'est une sensibilité particulière. Les couleurs, wow, les couleurs là-bas, c'est incroyable. Alors, les couleurs, les formes, l'ouïe, c'est un autre univers complètement. Les sons, les vibrations, le silence, le corps, les sensations du corps. Alors ça, c'est les portes là, où on veut être les gardiens de ces portes-là aujourd'hui, là. Rester très près de ça. L'esprit va repartir, tu vois, t'es en train de marcher. Ah, je devrais aller dans ma chambre, vérifier si mes chaussettes sont bien placées dans ma valise. Abandonne ça. Qu'est-ce qui se passe? Une chose qui se passe en ce moment, le contact des pieds avec le sol. Quelque chose comme ça. Une expérience qu'on peut avoir, que vous allez peut-être reconnaître si vous faites cette pratique-là aussi, déjà, c'est que quand on s'intéresse, on amène de l'attention, on prend soin de ce qui se passe. Il y a un événement que moi je trouve formidable, incroyable dans l'esprit, c'est qu'il peut y avoir, c'est possible, qu'il y ait une expérience de contentement qui naisse. Alors juste de s'intéresser, par exemple, là, pour mon corps qui est debout, les mains, les bras, tout à coup, c'est intéressant, l'esprit est engagé dans quelque chose. Il quitte le monde de « je voudrais être quelqu'un d'autre, être ailleurs, il manque quelque chose », toute l'expérience de manque disparaît. Puis là, il y a juste quelque chose de plein. C'est très simple, c'est des os, des tendons, les sensations reliées à ça. Ou de la luminosité, ou de l'ouïe. Puis cette intimité-là, là, se donner l'attention à quelque chose, qui peut faire tomber beaucoup du trouble qu'on a dans la vie. Là. C'est extrêmement simple. Puis là, on voit tout à coup, oui, mais non, il faut régler des trucs, tu sais. Et on abandonne à nouveau. On revient juste dans quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement primaire. Puis de là, on va voir vers quoi ça peut aller. Alors, je vous invite, si vous voulez, juste là, à vous lever debout, mais pas dans le but d'être debout aussi, mais si vous voulez être conscient pendant que vous vous levez, juste sentir le corps qui se délie. Quand je parle de l'attention au corps, le corps auquel je fais référence, encore une fois, c'est pas l'idée du corps, c'est pas un truc solide. Je fais référence à une rivière de sensations. Au moment où on se lève debout, il y a une rivière de sensations changeantes. À ce moment, si vous voulez, par exemple, amener votre poids sur le pied droit un peu, puis vous laisser balancer du pied droit au pied gauche le poids du corps. C'est pas l'image du corps, mais l'expérience elle-même. C'est comme une rivière de sensations, là. Il y a un déferlement de sensations changeantes. Est-ce que c'est possible de s'intéresser à ça, de s'approcher de ça? Puis ça va plus loin, d'entrer en amitié avec ça. Puis maintenant, peut-être l'immobilité pour un moment. C'est possible de se laisser sentir ces sensations-là. Pour plusieurs d'entre nous, là, ça va être une réentrée dans le corps là, qui a été abandonné peut-être parce qu'abusé, ou pour une raison ou pour une autre, là, parce que objectivisé, c'est le mot qui existe. On était dur avec le corps, on a voulu qu'il soit autrement, etc. Puis là, on entre d'une autre façon, humblement. On découvre ce que là, comme si on entrait dans un endroit où on n'est jamais allé. On n'entre pas avec nos exigences, là. On entre avec un esprit de découverte, d'humilité. Avec un regard frais aussi. Pas comme si on comme, mais oui, j'ai un corps, ça fait 40, 50 ans que j'ai un corps, je connais. Non, qu'est-ce que c'est d'avoir un corps aujourd'hui, en ce moment? OK. Alors, on a environ 30 minutes pour la méditation marcher. Je vous invite à aller explorer ça à votre façon. Et on se retrouve ici tout à l'heure. Merci.